J'avais envie de parler d'un sujet un petit peu particulier. C'est la disqualification. Voilà pourquoi on a parlé de... Ouais, j'ai montré cette vidéo. Ce coureur était prêt à tout donner. Il s'était entraîné pendant un long moment pour remporter le prix de sa course. Il y croyait de tout son cœur. Le commentateur dit qu'il était vraiment, il était super énervé, super excité. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est disqualifié lui-même de cette course et du prix de cette course. Et le commentateur dira plus tard, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est raide. Mais il y a quelque chose de vrai quand même là-dedans. Il avait déjà fait un faux départ, et donc il savait à quoi s'attendre. Il avait déjà été averti. Donc on va parler un petit peu de la disqualification. C'est bon, ça fonctionne ? Ce matin. Et bien sûr, on commence par ce verset dans 1 Corinthiens 9. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Je pense que ce thème est souvent mal compris et utilisé comme argument en faveur de la perte du salut. Avant de rentrer dans le vif du sujet ce matin, je voudrais dire que les versets qui parlent de ce thème-là, pour moi, ne parlent pas du salut, clairement, mais bien de la vocation et de l'appel de Dieu dont la porte nous est ouverte par le salut en Jésus-Christ. On peut lire un texte dans 2 Timothée 1. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, c'est fait, et il y a un « et » nous a adressé une sainte vocation. Il nous a sauvés et il nous adresse une vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La puissance de Dieu nous sauve et nous appelle. C'est très important de comprendre cela pour la suite du message et puis pour notre vie surtout. Le fait de ne pas marcher selon la vocation céleste n'affecte pas le fait d'être sauvé. Paul dira que ceux qui ne considèrent pas le chemin, qui vivent leur vie pour et par eux-mêmes, ceux-là seront quand même sauvés, mais sans récompense. On a ce verset bien très connu dans Corinthiens qui dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc au jour du jugement, on paraîtra devant Christ, et tout ce qu'on aura fait sera mis à la lumière, qu'est-ce qu'il se passera si elle est consumée, si le feu passe dessus et que ça n'a pas été construit avec Dieu ? Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, c'est clair. Mais comme au travers du feu. J'espère que l'assurance du salut est un point de doctrine sur lequel vous êtes fort. Parce que je le veux. Vous devez avoir cette assurance au fond de vos tripes que vous êtes sauvé. C'est important. Et on doit être capable de le défendre contre n'importe quelle attaque théologique, parce que c'est biblique et profondément biblique. Je le redis ce matin, la Bible déclare que si vous êtes à Christ, alors Dieu vous a sauvé. C'est au passé. Et il vous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Et il veille sur vous. Amen. Amen. Ah si, c'est revenu. Jean 10, c'est Jésus, bien sûr, qui parle. Il parle de ses brebis, autrement dit de ceux qu'il a sauvés. Et il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Amen. Mangeons chaque mot de ce verset qui est magnifique. « Et personne ne les ravira de ma main. » Qui veut essayer de ravir les brebis de la main de Jésus ? Moi, je ne veux pas essayer. Et au cas où on n'aurait pas compris, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. À mon avis, c'est comme ça que Jésus a parlé. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Il n'y a personne qui peut vous faire sortir du salut de Dieu en Jésus-Christ. Mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Si quelqu'un ce matin au milieu de nous, parce que je vois qu'il y a beaucoup de visiteurs, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise au milieu de nous. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Mais si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ et veut recevoir la vie éternelle, je leur donne la vie éternelle. Ben, si tu es cette personne, je veux te dire que si tu essaies par toi-même, ou si tu essaies de suivre une religion, quelle qu'elle soit, tu n'y arriveras pas. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Tu ne peux pas accéder à la vie éternelle par toi-même. L'homme peut essayer de faire tout ce qu'il peut, et la Bible est le témoin de cela. Tout l'Ancien Testament, la Bible juive, est là pour nous prouver cela, que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Mais heureusement, Jésus a mis un « mais » à tout ça, et il a dit « mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu ». Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et donc, si tu veux ce matin la vie éternelle, si pour toi ça a une valeur, la vie éternelle, ben c'est simple, il n'y a qu'un seul chemin. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Repens-toi de tes péchés et implore-le de te sauver. C'est simple. Pour avoir la vie éternelle, il faut que tu aies Christ en toi. Et pour avoir Christ en toi, il faut juste que tu te repentes de ta vie et que tu viennes à lui. Et alors, il va venir te sauver. Et je veux te donner cette garantie, il le fera. Il le fera. La Bible le déclare. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Personne ne peut le faire à ta place. Personne. Je veux prier quand même. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Seigneur, je peux parler, appeler, mais si ce n'est pas toi qui convainc les cœurs, Seigneur, alors ça ne sert à rien. Alors je te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, convainc ce matin ceux qui ne t'appartiennent pas. Appelle ce matin que la repentance naisse dans les cœurs ce matin et qu'ils viennent à toi. Amen. Amen. Alors on essaye maintenant un petit peu plus de regarder ce dont parle Paul. Alors, j'ai mis une classification qui n'est pas dans la Bible, mais c'est juste pour avancer et essayer de comprendre. Je dirais qu'il existe des disqualifications définitives sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ce matin, car elles ne nous concernent pas directement, ne concernent pas notre communauté, et d'autres que je vais qualifier plus de ponctuelles. Vous allez comprendre pourquoi cette séparation après. Je vais commencer par parler des définitives. Je vais prendre un exemple fort et je voudrais demander pardon si ça secoue un peu, mais c'est juste que c'est l'actualité, que ça existe et que c'est bien d'en parler. C'est bien, voilà. Dans l'Église, on parle de tout et rien n'est caché. En octobre 2008, un pasteur d'une petite église évangélique près de Nantes a été reconnu coupable et condamné, c'était dans le Figaro et Le Monde, à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir violé une jeune paroissienne pendant plusieurs mois entre 2013 et 2015. Au terme d'un procès devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, l'homme s'est par ailleurs vu imposer l'interdiction définitive d'exercer la fonction de pasteur. Et puis il devra verser 18 000 euros et 300 euros Cet homme était âgé de 66 ans et incarcéré depuis 2016, a reconnu avoir menti, avoir invoqué des arguments religieux, et il a reconnu avoir pris des notions de la Bible, de la religion, et les a reformulées pour aboutir à ses fins. Je crois que nous devons immédiatement, et sans détour bien sûr, condamner ce genre d'actes. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Ce sont des actes horribles, odieux, et la Bible déclare clairement et condamne clairement ce genre d'actes-là. Pour moi, ces prêtres ou ces pasteurs qui commettent ces actes atroces se disqualifient. Se poussent eux-mêmes en dehors de l'appel de Dieu sur leur vie. Et comme le parquet, je crois que Dieu réprouve après ça la fonction de pasteur pour ces hommes qui ne pourront probablement plus jamais être des leaders dans une église. Oui, je crois que Dieu est plein de miséricorde et de pardon, mais je crois aussi qu'il protège son peuple et qu'il repousse l'infamie en dehors de sa famille. Le deuxième exemple que je voudrais citer par rapport à cette classification de disqualification, j'allais dire, où on peut pas, il n'y a pas vraiment de retour possible, ou alors c'est un chemin très très long, c'est celle dont Paul parle à Timothée, quand il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc à la charge d'ancien, de pasteur dans une église, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré, etc., etc. » Donc, la condition est posée, mari d'une seule femme. Ainsi, les personnes engagées dans la polygamie, je crois qu'elles se sont disqualifiées de l'appel de Dieu dans leur vie à être un jour ancien responsable d'une église locale, car le divorce n'est pas non plus une option dans la Bible. Le mariage d'un homme et d'une femme, c'est ni plus ni moins que l'image terrestre de la relation entre Christ et son épouse. Jésus a une seule et unique épouse. La polygamie ne peut donc pas le représenter. Voilà. Bien sûr qu'il y a d'autres exemples sur ce genre de disqualification, mais je passe parce que je pense que c'était bien d'en parler parce que ça fait l'actualité, mais ce n'est pas l'objet de ici. Et je voudrais qu'on passe un peu plus de temps maintenant sur les autres types de disqualifications que j'ai appelées plus ponctuelles. Et pour imager ce dont je vais parler, on va partir dans la Genèse, où il y a une histoire avec deux frères. Vous savez de qui je vais parler ? Qui ont des caractères bien différents. L'un a tout fait pour obtenir la bénédiction de Dieu, quitte à tricher, à mentir. Ça fait partie de son nom d'ailleurs. Et l'autre, il était très occupé. Il était fatigué par son activité. Si bien qu'un jour, il a échangé sa destinée contre un bon petit plat. Je me suis dit, ce gars-là, ça doit être l'ancêtre des Français. Il s'agit de Jacob et Ésaü. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Il est cash. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» En fait, c'est parce qu'il partait, il revenait de la chasse. Et il était juste rincé, il était épuisé. C'est pour ça qu'il y a cette expression « je m'en vais mourir ». Et Jacob dit « jure-le-moi d'abord ». Et qu'est-ce que fait Ésaü ? Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. J'espère que c'était bon. Et la conclusion, c'est « C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Alors parfois, il y a des petites phrases comme ça dans la Bible qu'on lit rapidement, Mais rendons-nous compte de la portée de ce verset. Quoi. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü a méprisé son appel. Il l'a relégué au second plan. Il était l'aîné de la famille. Et cela signifiait, dans la culture de l'époque, que c'était lui qui devait recevoir la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham par la main de son père, Isaac. Isaac aurait dû prier pour Ésaü. Mais Ésaü s'est disqualifié lui-même, comme le coureur. Personne ne l'a disqualifié, c'est lui-même qui s'est disqualifié par rapport à l'appel normal qui était sur sa vie. Ce qui peut paraître difficile et surprenant dans cette histoire, c'est que Dieu a utilisé, du coup, un autre pour répandre sa bénédiction et accomplir ses œuvres. Est-ce que ça vous choque, ça ? Ça peut nous choquer un peu, et c'est normal. Mais, si on y réfléchit un peu, heureusement que Dieu continue ses plans malgré les décisions des hommes et des femmes. Vous êtes d'accord avec cela ? Heureusement que Dieu n'attend pas le bon vouloir humain pour sauver, pour guérir, pour consoler, pour répandre sa bonté et ses bénédictions. Dieu, dans l'établissement de ses projets, veut faire participer l'homme à sa gloire. Et c'est ça que nous devrions trouver surprenant. Que ce Dieu énorme veuille t'utiliser, toi, pour montrer sa gloire. Il veut te rendre participant de sa gloire à lui. Imaginons une seconde que les plans de Dieu dépendent du bon vouloir de l'homme. Cet homme, bien sûr, avec un grand H, homme et femme, qui peuvent être mauvais, égoïstes, paresseux, pervers, etc. Non, cela n'est pas possible. Dieu est le Dieu tout-puissant. S'il décide quelque chose, alors elle s'accomplit, même si les hommes ne le veulent pas ou s'y opposent. En y réfléchissant, je me suis dit que pour moi, les deux plus grandes preuves de cela, qui montrent clairement que Dieu fait ce qu'il a prévu malgré les hommes, c'est un, la création de l'État d'Israël, quand on y pense deux minutes, que ce soit au moment de l'Antiquité ou maintenant, sa réapparition au XXe siècle. Heureusement que les hommes n'ont rien pu faire pour contrecarrer cela. Israël est le projet de Dieu et Israël est là. Amen. J'espère que vous en êtes convaincus, sinon relisez la Bible. Le deuxième, c'est la dispensation de l'évangile de Christ sur toute la terre. Dans ces deux cas, les hommes ont tout essayé pour que les bénédictions disparaissent, pour que ces bénédictions disparaissent, mais Dieu a toujours le dernier mot. Israël et l'Église sont le projet de Dieu pour l'humanité et rien ne peut se dresser contre. Rien. Dieu repoussera toujours les ennemis de ses plans. Amen. Vous en êtes convaincus, j'espère. Dieu repoussera toujours les ennemis de ses plans. Et c'est pour ça que nous devons porter l'Église et Israël dans nos cœurs, parce que ce sont son plan. Ils sont son plan. Du coup, ce n'est pas choquant de dire maintenant que si quelqu'un désobéit et refuse de faire ce que Dieu demande, alors Dieu suscite quelqu'un d'autre et la première personne se voit disqualifiée de cette course-là. Comme le coureur qui s'est disqualifié de la course des JO de 2016. Mais bien sûr, il a couru avant et il continuera de courir après. Mais les projets de Dieu suivent toujours leur cours. Ce que je trouve rassurant avec le Nouveau Testament, où c'est plus présent, c'est que la charge de la vocation semble aller crescendo. Et pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Dans Matthieu 25, on trouve ce verset deux fois où Jésus dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et donc je t'en confierai beaucoup maintenant. Ce qui fait qu'au début, quand Dieu demande notre fidélité, il le fait avec des petites choses. Du coup, si nous nous disqualifions en n'obéissant pas, eh bien, nous ne passons pas à côté d'un truc énorme, comme Ésaü. Vous savez, c'est quoi le pire, à côté de la pire chose qu'Ésaü ait passée, pour moi ? C'est juste sa descendance. Imaginons, qui allait arriver derrière ? Plusieurs centaines, milliers d'années. Jésus. Waouh. Waouh. J'espère qu'il ne l'a pas réalisé avant d'être déjà au ciel. Je ne sais pas si c'est si on peut se remettre. Mais la bonne nouvelle, avec ceci, et ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu a des projets extraordinaires pour nos vies. Des projets que nous ne soupçonnons pas. Merci pour les prophéties ce matin qui ont parlé de la royauté, de la couronne. Et aussi, merci Marie pour ce que tu as partagé. C'est vrai, Dieu a des projets pour nos vies que nous ne soupçonnons pas. Vous en êtes convaincus ? C'est important, parce que c'est ça qui va nous faire nous attacher à l'appel de Dieu sur nos vies. La bonne nouvelle aussi, c'est que si nous nous disqualifions pour une chose, Dieu est toujours prêt à nous refaire confiance pour d'autres. Nous pouvons toujours participer à une nouvelle course. Et il y aura toujours une nouvelle course à courir. Et même Ésaü a quand même été béni. Si vous lisez la fin de l'histoire, il a eu une large descendance, il est devenu riche et il a prospéré. Posons-nous cette question cet été. Pour quel plat succulent, ou autrement dit, contre quel plaisir de la vie, est-ce que je suis tenté ou est-ce que j'ai déjà échangé mon service dans l'Église ? Ou même plus que ça, peut-être même mon appel, l'appel de Dieu sur ma vie. Posons-nous cette question sérieusement. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime plus que l'appel de Dieu sur ma vie ? On va presque finir à l'heure. En conclusion, je voudrais citer trois hommes. Pierre, Paul, Jacques, facile à retenir. Parce qu'ils nous encouragent beaucoup à rechercher et à toujours persévérer dans le service et l'appel du Seigneur. Heureux l'homme, Jacques, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. Si tu vas jusqu'au bout, tu recevras la couronne, elle ne sera pas brûlée. 1 Pierre 5, 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, Jésus, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Waouh, il va fort Pierre, hein ? Il n'avait pas une petite vision, il n'avait pas une petite estime de l'appel, de la destinée de Dieu sur sa vie. La couronne incorruptible de la gloire. Est-ce que vous auriez parlé comme ça, de ce qui vous attend auprès de Dieu ? Moi, je ne suis pas sûr. Et alors Paul, lui, il me scotche. Lui, carrément, désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est fini. Pourquoi on se fait du souci ? Quelle conviction ! Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Donc il est parlé du jour de son retour. Waouh ! Waouh ! Quelle conviction ! Pourquoi ? Parce qu'il était focalisé là-dessus. Sa vie n'avait aucune importance à Paul. Son appel, ça oui. Certains même se sont opposés. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-haut à Jérusalem ? Et il n'y va pas. Tu vas être lié et tout ça. Paul, il a dit, non. C'est ma destinée. J'y vais. Moi, j'y vais. Parce qu'après, je vais peut-être aller à Rome. et tu vas être en prison. Mais on s'en fiche. Et la couronne, elle m'est réservée. Il avait son focus sur les choses importantes. Tous les trois nous encouragent à obtenir cette couronne incorruptible. Tous les trois nous encouragent à obtenir la récompense de la main de Dieu lui-même. Je continue à nous poser des questions, puisque Marie nous y a encouragés pour l'été. Après quoi courons-nous dans la vie ? C'est important. Après quoi courons-nous ? Par quoi sommes-nous passionnés ? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans la vie ? Quelle place possède l'appel de Dieu dans ton cœur ? Et une des manières de répondre à ces questions-là, c'est ce genre de questions aussi. Pourquoi, en deux mots, utilises-tu ton argent ? Tu les dépenses où ? Ton temps ? Où est-ce que tu passes la plupart de ton temps ? Ton énergie ? Je pense que si on répond honnêtement à ces questions-là, on sait où on en est par rapport à l'appel de Dieu. Et si clairement c'est pour Jésus, amen. Si clairement c'est pas pour Jésus, amen aussi, parce que ça y est, tu peux te repentir et revenir. Parce que Dieu t'attend, Dieu t'attend. Je voudrais ce matin nous réencourager à considérer notre destinée en Christ comme très importante, comme prioritaire. Il y a plus pour nos vies dans la destinée de Dieu pour nous que dans les voies que l'on poursuit par nous-mêmes. Je le répète, il y a plus pour nos vies dans la destinée de Dieu pour nous que dans les voies que l'on poursuit par soi-même. Il n'y a pas d'un côté ma famille, mon travail, ma maison, et puis, en dernière roue de carrosse, Dieu et son Église, mais il y a Christ partout, Christ en premier, et ce à quoi il m'appelle, la vocation pour laquelle je suis né. Amen. Si certains cherchent encore un sens à leur vie, tu es né pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Toute ma vie est au service de mon Père céleste et des œuvres que lui a préparées pour que nous les pratiquions. Prenons le temps pendant l'été pour penser aussi à l'Assemblée ici. L'Assemblée rentre dans des projets de Dieu et ses projets grandissent. Et ça, c'est excellent. Notre communauté grandit et donc ses besoins avec. L'école grandit. Joël m'a partagé hier soir qu'il y a déjà 15 enfants inscrits à la rentrée. Amen. On peut applaudir ça, c'est juste extra, moi, je trouve. C'est juste extra. C'est excellent. Merci, Seigneur, de ce que tu fais avec cette œuvre. Et la section élémentaire démarre avec l'ouverture du CP. L'école aura donc besoin de soutien. Accueil, garderie, repas, prière, etc. Comme nous l'avons annoncé, nous avons aussi prévu la nomination d'un ancien supplémentaire en septembre. David va être nommé ancien. On peut aussi applaudir. Je voudrais aussi vous encourager de continuer de porter cela, de porter la famille B dans la prière durant l'été. C'est un moment important, c'est une décision spirituelle que l'Église fait, met en œuvre. Bien sûr, elle ne fait que reconnaître ce que David a déjà en lui et le don qui se manifeste au milieu de nous. Mais c'est important de porter ça encore et encore dans la prière. Et pourquoi on nomme un ancien ? Juste parce que c'est fun ? Non, c'est pas fun. Si, c'est quand même sympa. Mais parce que Dieu fait avancer son œuvre parmi nous. C'est ça qui est important. La communauté grandit et nous allons démarrer. Nous avons ce projet de démarrer aussi en centre-ville de Nîmes. Un deuxième lieu de culte. On va commencer par une fois par mois. Alors ça s'oriente de plus en plus en face le lycée d'Odé, dans les locaux de l'Armée du Salut. Ce sera sûrement le samedi soir. Au niveau des horaires, on dépend un peu de leur fonctionnement à eux. Donc ce sera sûrement en fin de soirée vers 19h30 ou 20h. Priez aussi pour cela. On en parlera bien sûr beaucoup plus à la rentrée, mais on aura besoin d'une équipe qui s'investit dans ce démarrage là-bas. Et bien sûr, plein d'autres choses. Mais on en parlera à la rentrée. Jésus nous a sauvés et il nous a appelés à rentrer dans ses projets, car une grande bénédiction nous attend là. La manière la plus biblique de rentrer dans les plans de Dieu est de servir son assemblée, de servir l'assemblée locale dans laquelle Dieu t'a placé. Amen. Pour les visiteurs, je vous le dis aussi, vous rentrez dans vos assemblées et vous servez l'assemblée. C'est là manière la plus biblique de rentrer dans l'appel de Dieu. Alors bien sûr, l'assemblée locale peut vous envoyer à Pétaouchnok, à l'île de la Réunion, ou au Cambodge, ou au Pakistan. Il y a plus auprès de Jésus que partout ailleurs. Est-ce qu'on peut retenir juste cette phrase du message ? Parce que je sais que vous ne retiendrez pas tout. Il y a plus auprès de Jésus que partout ailleurs. Vous êtes d'accord avec cela ? On prend juste deux passages et je me tais. C'est toujours bien de finir avec la parole de Dieu. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres et ne reçoive au centuple maintenant. » Dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers sont les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et je finis avec Hébreux 6. Car Dieu n'est pas injuste, c'est l'apôtre Paul qui parle, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ça, vous pouvez le prendre pour vous. Nous pouvons le prendre pour nous. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et notre amour. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, on est engagé dans notre assemblée les uns envers les autres. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Demandez de vous lever et puis on va finir en priant. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est ça qui nous tient à toi. C'est ça qui nous unit les uns aux autres. Et c'est ça qui nous donne notre espérance, notre force, notre paix, parce que nous sommes convaincus par ton amour. Nous sommes convaincus par l'Esprit Saint qui atteste cela dans nos cœurs. Seigneur, merci parce qu'on peut parler de ces sujets aussi, Seigneur, où oui, il y a des moments où on peut être disqualifié de certaines choses par notre attitude, mais ça ne change pas ton amour, Seigneur, pour nous. Et si tu le fais, c'est parce que tu es bienveillant, Seigneur, que tu es bon et que ton plan se déroule, Seigneur, comme toi tu l'avais prévu. Seigneur, je veux te dire merci ce matin parce que tu ne laisses pas quoi que ce soit, ni l'homme, ni les puissances, dérouter ce que tu avais prévu pour l'humanité, Seigneur. Et ça, c'est juste excellent, Seigneur. Et je me réjouis de cela, Seigneur. Merci aussi parce que de grandes bénédictions sont pour nos vies, Seigneur. Tu as de grands rêves pour chacun de nous, Seigneur. Et c'est vrai qu'on ne soupçonne pas, on soupçonne pas ce que tu prévois. Parce que toi, tu prévois sur des générations. Tu ne prévois pas juste sur une année, sur une semaine. Ton plan, il est de génération en génération. Et Seigneur, fais que nous, dans notre génération, nous puissions accomplir ton œuvre, celle que tu as préparée pour nous, individuellement et en tant que communauté. Sois béni, Seigneur. Amen.